Allô?
Coucou, ça va?
Ouais, toi?
Ouais, je t'appelle parce que j'ai eu une idée.
Ouais, c'est quoi?
Bah tu vois, en vrai, on a pris l'habitude de parler de féminisme toutes les deux. Enfin, je sais pas, quand on se documente, on partage des infos et tout. Et je me suis dit que ça serait sympa de partager ce qu'on découvre avec d'autres personnes.
Comment ça, d'autres personnes?
Bah d'autres personnes, je pensais notamment aux auditeurs de Studio Zef.
Ah ok, mais tu veux t'y prendre comment?
Bah comme ça, en fait, on s'appelle, on discute. Je pense qu'on est sœurs, on est féministes, on peut appeler ça sororité et c'est fait.
Vas-y, ça part.
Et tu sais, je me posais une question, je relisais un livre de Simone de Beauvoir, tu sais, où elle dit la mythique phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Et je me suis dit, est-ce que c'est pareil pour les hommes? Est-ce qu'on est homme ou est-ce qu'on ne naît pas homme?
Moi, je pense qu'on ne naît pas homme non plus et que c'est hyper compliqué aussi de se trouver sa féminité aussi, oui. De rentrer dans les codes de la masculinité, je pense que c'est autant, voire plus difficile que la féminité. Après, j'ai pas envie de faire des hiérarchies, mais je pense que c'est difficile aussi. Et parce qu'en plus, c'est rattaché à la virilité et tout ça, et c'est compliqué.
Donc tu penses qu'on ne naît pas viril?
Non, on ne naît pas masculin même, en fait. Comme on ne naît pas féminin. Enfin, on ne naît pas avec les codes qui nous sont attribués ensuite, quoi.
Ok. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'éducation des petites filles dans le féminisme. Tu sais, leur apprendre à s'accepter, à être indépendante et tout, enfin, etc. Ouais. Mais je pense aussi que... Enfin, quand on voit le sexisme que les hommes peuvent avoir, ils doivent bien le sortir de quelque part, en fait.
Ouais, c'est ça, en fait.
Et du coup, le féminisme, c'est aussi une affaire d'hommes, dans le sens où, dans le féminisme, on milite aussi pour leur liberté à eux, donc la liberté, je sais pas, d'exprimer leurs émotions, par exemple, parce que c'est vrai que pour un homme, il faut pas pleurer, faut pas souffrir, faut pas avoir peur, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et je sais pas, je me disais que si, on veut vraiment éradiquer le sexisme de notre société, je pense qu'il faut éduquer les garçons comme les petites filles.
Ouais, c'est ça. Il y a un travail à faire autant du côté des garçons que des filles, parce que c'est... ça va pas les deux en fait. Et que c'est un truc c'est lié forcément en fait.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu tous grignotés par nos stéréotypes sexuels, aussi bien sur le féminin que sur le masculin au final.
Oui, carrément.
Et d'ailleurs, il y avait une phrase que j'avais lue, je sais plus où, de Bourdieu, ou que j'avais entendue, je crois que c'était dans un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, de Victoire Toyon. Ouais, qui est hyper chouette, je conseille à tout le monde de l'écouter. Et du coup, Bourdieu, il disait, la virilité, c'est à la fois un privilège et un piège. Parce qu'en fait, la domination masculine victimise les femmes. Ça, c'est acquis. On le sait, dans le féminisme, c'est quelque chose qui est assez... dont on parle beaucoup, mais ça victimise aussi les hommes, au final. Et en fait, l'oppression se fait aussi bien de l'homme sur la femme que de l'homme sur l'homme.
Ouais, et d'ailleurs, si on remet pas en doute... on remet souvent en doute la féminité des femmes et rarement leur identité en tant que femme, tu vois. Alors que par contre, pour les hommes... on remet souvent en doute leur masculinité parce que c'est pas des vrais hommes entre guillemets, tu vois.
Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est qu'en fait, être un homme, c'est quelque chose qui s'acquiert.
Ouais, voilà, c'est ça. Et j'avais lu un livre aussi sur la masculinité justement de Elisabeth Badinter, où elle disait que être un homme, être un vrai homme entre guillemets, entre énormes guillemets, c'est quelque chose qui est rattaché à la virilité. Et du coup, la virilité, par contre, c'est un artefact total. C'est quelque chose qui est construit. Et du coup, forcément, c'est la masculinité est hyper relative. Et elle disait aussi que la masculinité, justement, est relative et réactive en fonction de la féminité. En fait, à chaque fois que la féminité se redéfinit, donc à peu près à chaque vague de féminisme, en fait, la masculinité s'en trouve complètement déstabilisée. Et du coup, en fait, on voit que la masculinité se définit en rapport et contre la féminité, en fait.
D'accord. Donc, en fait, à chaque fois qu'on remet en question ce que signifie être une femme, et bah forcément, on remet en question ce que signifie être un homme, parce que c'est fait par opposition.
Et c'est assez plutôt logique, en fait, parce que tout a son opposé, il y a une... tout est quelque chose parce qu'il y a son contraire, en fait.
Ouais, d'accord, mais du coup, ça forcément, on est dans une sorte de guerre entre ce que le masculin et le féminin. Et puis on restera toujours comme ça. Ça veut dire que même si à un moment, les femmes décident d'être très indépendantes, très... c'est sûr d'elle et tout ça, ça veut dire que la masculinité va se construire à l'inverse de ça et que du coup les hommes ne pourront plus l'être. Enfin, c'est une question que je pose.
Ouais, c'est ça le problème en fait, c'est qu'elle devrait pas se construire en opposition, mais juste en affirmation aussi, comme la féminité devrait se construire en affirmation de quelque chose qui devrait être bienfaiteur pour le reste, mais après quoi, je sais pas, se construire juste sur la bienveillance et tout ça, quoi. Pas sur une opposition.
Mais c'est ça, c'est que je pense qu'on peut se construire en parallèle sans être en opposition et peut-être du coup réussir à une espèce d'harmonie où chacun... Enfin, est-ce qu'on est obligé vraiment qu'il y ait une différence entre la masculinité et la féminité ?
Ah bah c'est ça. C'est que ça, c'est une grande question dans le féminisme, d'ailleurs. J'ai vu ça avec le féminisme différentialiste et tout. Enfin, ça, on verra ça sur un autre moment. Mais on a vu que du coup, dans les années 70, du coup, c'était pendant un mouvement féministe, justement, on a commencé à remettre en question ce qu'était être une femme, tu vois. Et cela, ça a totalement questionné les hommes directement, tu vois. C'était d'ailleurs le début des gender studies aux États-Unis.
Donc des études sur le genre, ouais.
Ouais, c'est ça. Et du coup, des études sur les hommes. Et en fait, par exemple, Margaret Mead, qui a écrit « Mœurs et sexualité en Océanie », elle a découvert que du coup, enfin, elle a découvert, c'est pas non plus « waouh », mais on s'en doute un peu, mais qu'il n'y avait pas une masculinité, mais qu'en fait, la masculinité serait plurielle, parce que justement, à travers l'Océanie et tout, elle a découvert des pratiques qui étaient totalement opposées les unes aux autres, et que du coup, c'était pas une façon d'être un homme, comme on savait déjà, il n'y avait pas une façon d'être une femme. Et on a découvert qu'en fait, c'était pareil pour les deux. Et du coup, donc, par cela, on a bien compris que la masculinité, c'est une idéologie, elle n'est pas universelle. Et que c'était surtout une idéologie pour justifier la domination, en fait.
D'accord. Donc, en fait, l'homme qui est défini par sa domination, c'est quelque chose qui n'existe pas, au final, vraiment scientifiquement, en fait.
Ouais, non. Bah, c'est pas quelque chose qui est naturel, en tout cas.
Ok. Puis c'est quelque chose, du coup, qui n'est ni sain pour les hommes, ni pour les femmes, au final.
Ouais, bah non, pas du tout.
Parce que
ça les met dans une place pleine de...
Bah d'oppresseurs, alors qu'ils auraient peut-être pas choisi naturellement cette place-là, selon leur éducation, en fait.
Ah, puis en plus, c'est pas une place sympa, parce que de toute façon, t'as beaucoup d'attentes et tout ça pour arriver à garder cette place.
Ouais, une pression.
C'est beaucoup de pression, je trouve.
Et tu penses qu'ils en ont conscience, qu'ils sont dominants ? Enfin, est-ce que tu crois qu'ils se lèvent le matin, enfin... Il faudrait qu'il y ait un homme avec nous au téléphone pour nous confirmer ça. Mais est-ce que tu crois qu'il se lève le matin en disant hey, « Aujourd'hui, je vais passer une sale journée de dominant.
» Bah, je pense que c'est comme... Enfin, tu vois, nous, on est blanches et on se dit pas tous les matins « Ah, j'ai de la chance de pas me faire agresser dans la rue parce que je suis noire. »
Oui, c'est vrai.
Et je pense que c'est pareil pour les gens qui n'ont pas ces problèmes.
Ouais,
on peut remarquer qu'on n'a pas de problème. On remarque quand on a un problème et pas quand on n'en a pas.
Ok, et puis comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ils sont peut-être même dominés par leur propre domination.
Ouais, carrément.
Qui leur octroie des droits, hein, comme voilà, celui de gagner plus de 20% de plus que les femmes, mais aussi des devoirs. Parce qu'il y a des critères à remplir pour être socialement accepté en tant que masculin et homme dans la société, au final.
Ouais, puis en plus, c'est quelque chose qui est compliqué même entre les relations entre les hommes. Bon, c'est pareil avec les femmes, parce que... Mais après, maintenant, en ce moment, il y a plus de...
De sororité.
De sororité entre les femmes, alors que entre les hommes, il y a quand même quelque chose à travailler, je pense, pour que tout le monde puisse avoir sa masculinité comme il veut et pas...
comme il le doit.
Voilà, c'est ça. C'est vite, on lance vite des choses qui sont dures à entendre, je trouve, entre hommes.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des insultes qui partent facilement et qui remettent en cause ce statut d'homme dominant, au final.
Ouais, c'est ça, tu vois, t'es un mec ou pas, dès que ça commence à s'embrouiller, ça part sur des trucs là-dessus alors que ça n'a aucun rapport, enfin, calmez-vous les enfants. Et du coup, en plus, on à travers les années, il y a eu plusieurs crises de la masculinité, et particulièrement en France et en Angleterre, parce qu'en fait, on pense en tout cas que c'est là où les femmes étaient le plus libres, et donc où les frontières entre les sexes devenaient floues, et donc ça brouillait les repères en fait. Et du coup, ça génère une angoisse masculine qui souvent a été calmée par la guerre, puisque ça réaffirme une masculinité, puisque c'est le soldat.
Voilà, et puis je trouve que même aujourd'hui, là, avec un petit peu le féminisme dont on entend beaucoup parler, avec les femmes qui commencent un petit peu à se faire entendre, on entend aussi beaucoup parler de femmes qui viennent... Enfin voilà, quand on parle de féminazie, c'est typiquement cette masculinité qui est remise en question et qui fait peur aux hommes, en fait.
Ouais.
Parce que, en même temps, je comprends, hein, parce qu'on leur explique que comment ils se sont construits toute leur vie, c'est pas la bonne façon de se construire. Il y a une remise en question à faire que nous, on a faite par la force des choses, parce que nous, en tant que femmes dominées ou femmes oppressées par les hommes, forcément, c'est plus facile de se remettre en question en tant que victime. Mais quand on te traite d'oppresseur alors que tu t'en rends pas forcément compte, et que toi, t'as toujours été élevée comme ça, je pense qu'il y a une violence aussi qui a été faite, et il y a une éducation à faire auprès des hommes. Enfin voilà, on n'est pas contre eux, on est avec eux, et c'est une libération aussi pour eux, je pense.
Ouais, c'est ça, et je pense qu'aussi, accusation entre guillemets qu'on a contre les hommes, mais c'est pas vraiment des accusations, c'est des constats, tu vois. Et ils sont pris mal par les personnes qui rentrent dans le canon de la masculinité, parce qu'ils se sentent touchés. Et en même temps, ceux qui y rentrent pas, ils sont en mode ouais, d'accord, donc ça va pas pour les mecs, ça va pas pour les femmes. Au bout d'un moment, moi j'ai rien fait en fait. Après, le moi j'ai rien fait, on est d'accord là-dessus, mais.
Oui, voilà, que bien sûr, quand on parle des hommes, enfin voilà, je le redis pour sororité, quand on parle des hommes qui agressent, qui oppressent et tout ça, on parle des hommes en général, on parle pas de toi, ni toi, ni toi. C'est bien sûr, heureusement qu'il y a des hommes qui ne le font pas et qui ont été éduqués dans le respect, ou même des fois des hommes qui n'ont pas été éduqués dans ces habitudes-là, qui ont réussi à se déconstruire en se documentant et en faisant les choses de façon à être quelqu'un de bien.
Ouais, c'est ça, et respectueux et qui prend en compte l'autre.
C'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est important de dire vraiment que les hommes ont leur place dans le féminisme.
Ouais,
et même qu'on a besoin d'eux.
Ouais, et que vraiment, c'est important qu'ils rentrent dans le truc parce que c'est bon. Enfin, c'est pour eux aussi, en fait. Enfin, moi, vraiment, hein, je pense qu'il y a autant de choses à faire. Parce qu'on commence tout juste, j'ai l'impression, à se dire « Ah, peut-être qu'il y a un problème aussi pour les mecs. » Et je pense qu'il y a un truc à creuser où il va y avoir autant de choses à travailler que dans les deux, parce qu'en plus on pourra pas arrêter de galérer tant qu'il y aura pas un changement de mentalité des deux.
Oui, c'est ça. Bah, tant qu'on se construira en opposition l'un avec l'autre, ça ne pourra pas fonctionner.
C'est
enfin, tu vois, féminité vs masculinité, non, faut arrêter.
C'est ça, de toute façon. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs crises de la masculinité un peu partout. Enfin, au 18e, ça avait été avec l'industrialisation après, puisque les hommes sont partis au travail et tout. Et du coup, le succès, en fait, la masculinité, elle se redéfinit avec à chaque fois qu'il y a une crise, en fait. Et du coup, on a vu qu'avec l'industrialisation, on a commencé à redéfinir la masculinité par le succès financier et professionnel.
D'accord.
Sauf qu'après, les femmes, elles sont parties au travail. Du coup, on a fait, ah, mais comment on va faire? Puisque si les femmes peuvent aussi être masculines, merde. Et du coup, il y a une inquiétude parce que, le foyer s'est féminisé, mais qu'aussi les professions se sont féminisées. Et du coup, la masculinité s'est redéfinie par la maîtrise, la force morale, la force physique. Et du coup, c'est d'ailleurs à cette période, fin 20e, qu'ont été créés les scouts, les sportco aux États-Unis. Et donc ça, c'est des microcosmes non mixtes et très souvent machistes, et qui opèrent des systèmes de domination intramasculine, tu vois.
Bah, je trouve ça assez visible, vraiment, surtout aux États-Unis, tu sais, avec les grandes équipes de rugby américain qui existent dans les lycées et dans les universités, où généralement il y a aussi de sales histoires de femmes qui ont été abusées autour de ça, en fait, aussi.
Ouais, et les scouts, c'est pareil, c'est un truc pour former les hommes.
Ouais.
C'est quand même assez probant comme preuve, je trouve. Enfin, pas comme preuve, mais comme exemple. Quand tu réfléchis, c'est comment se débrouiller tout seul quand tu es un homme.
Oui.
Parce que je crois qu'il n'y a pas trop de filles dans les scouts. Peut-être maintenant, mais au début, je ne pense pas que c'était pour les filles.
D'accord. Ça, je t'avoue, je m'y connais très peu niveau scoutisme. C'est quelque chose que je trouve même un peu inquiétant.
Oui, moi aussi. Et d'ailleurs, en plus, oui, ça se voit particulièrement aux États-Unis, mais en plus, on voit qu'aux États-Unis, il y a pas mal de problèmes avec la virilité. J'ai l'impression que c'est là-bas qu'on voit le plus en ce moment.
Avec les camps pour hommes faibles. On leur apprend à être un homme, un vrai, et à se rouler dans la boue, et pas pleurer, et se faire mal. Enfin, tu vois.
Moi, je trouve ça drôle.
Alors, c'est drôle.
Oui.
Jusqu'à un certain point, on va dire.
Une extérieure, on va dire.
C'est ça, de très loin. De très, très loin. Parce que moi, si mon mec, il va faire un truc comme ça, je pense que ça me fera pas rire.
Moi non plus. Ouais, non, je pense que ce sera plus mon mec, du coup. Et du coup, de manière générale, on se définit par inclusion, et du coup, et par exclusion. Et du coup, mais ça, ça se vaut pour tous les humains. Et l'identité sexuelle, c'est pareil. Elle se définit par négativement et par affirmation aussi. Mais du coup, pour la masculinité, ce serait une triple négation. Donc, c'est d'abord, je ne suis pas un bébé. Après, je ne suis pas une femme. Et après, alors là, on ne sait pas d'où ça vient, mais je ne suis pas homosexuelle. Ce qui est un peu contradictoire, puisque un homosexuel est aussi un homme. Mais bon, ça... Et d'ailleurs, oui, y a un psy américain qui s'appelle Ruth Hartley, je sais absolument pas comment ça prononce son prénom, qui a mené une étude sur des petits garçons et il leur demandait comment ils se définissaient. À chaque fois, ils disaient juste que c'était pas des filles.
D'accord. Ouais, c'est
Enfin, c'est quand même intéressant, je trouve.
Aurélia Blanc, dans son livre Tu seras un homme féministe, mon fils, elle montre, tu vois, l'intérêt des filles, que l'intérêt pour des filles pour les sports de combat, pour l'aventure, pour même les petites voitures, c'est quelque chose qui est plutôt valorisé, en fait. Il y a une connotation positive à faire des activités qui sont dites masculines, hein, je mets des guillemets évidemment.
Mmh.
Alors qu'un petit garçon qui va vouloir s'habiller en princesse, se jouer à la poupée, bah en fait il y aura beaucoup plus de réticence de la part des adultes qui l'entourent. Parce qu'en fait, bah, le féminin est connoté négativement et est vu comme quelque chose de faible. Et du coup, voilà, les petits garçons, ils sont privés de la liberté de jouer à des jeux de filles parce que c'est, voilà, c'est pas des faibles.
Mais d'ailleurs, on voit que l'identité masculine, elle se construit avant l'identité féminine, puisqu'ils ont plutôt à prouver que c'est des hommes, plutôt que nous à prouver qu'on est des femmes. Et oui, d'ailleurs, comme tu disais, on a plus, c'est plus facile d'être un garçon manqué que l'inverse. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas de mots vraiment à part des insultes.
Oui, c'est ça. C'est qu'on dit rarement que c'est une fille manquée. Enfin, même ouais. Jamais, en fait. J'ai jamais entendu ça.
Ouais, c'est ça. Ah oui, et ce que je voulais te dire aussi, c'est que... Et j'ai vu qu'il y avait une expérience qui a été faite par deux chercheurs qui s'appellent Luria et Rubin, qui ont fait une expérience, du coup, avec des bébés qui avaient 24 heures, donc ils ne sont pas encore différenciés. Et ils faisaient tous le même poids, la même taille. Et s'ils étaient garçons, les parents avaient tendance à les décrire comme grands, avec des traits marqués. Et contrairement aux filles, qui étaient décrites comme mignonnes, petites, avec des traits fins. Et du coup, c'était surtout les pères qui auraient tendance à genrer, en tout cas dans cette expérience. Et du coup, on voit bien que c'est une construction sociale et que elle serait plus importante pour les hommes, en fait, que pour les femmes.
Bah, tu vois, j'ai vu une étude un peu similaire. Donc, moi, j'ai pas les auteurs de l'étude. Voilà. Et c'était une étude sur les pleurs des bébés. Donc, en fait, un pleur aigu était directement associé au féminin, contrairement à un pleur plus grave qui était associé au masculin. Alors que rien à voir. Hein. Dans les faits, c'était même pas du tout le cas. Et en fait, il y avait même un truc encore plus poussé, c'est-à-dire que les pères avaient aussi tendance à associer les pleurs qu'ils associaient au masculin comme à une demande pour répondre à un de ses besoins. Tu vois, le bébé pleurait parce qu'il avait faim, il avait soif, enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Contrairement aux pleurs plus aigus qui étaient associés au féminin, où ils avaient tendance à dire que, bah voilà, elle pleurait pour rien.
Ah, super.
Tu vois, comme quoi, alors, tu vois, déjà, bébé, un petit garçon ne pleure pas pour rien. Vraiment, s'il pleure, c'est qu'il est au fond du trou.
Par contre, une petite fille, bien sûr.
Bah, c'est chouineuse.
Toujours, ça grandit comme ça d'ailleurs. Et du coup, Elisabeth Badinter, pour en revenir à elle, dans son livre, elle parle de la relation avec la mère qui, pour elle, c'est primordial parce que il y a une vie déjà intra-utérine et les premiers mois qui sont fusionnels. Et le mâle doit après, en fait, contrairement aux femmes, les hommes doivent s'en séparer. Alors que c'est la première fois c'est leur première relation amoureuse, limite. Enfin, c'est un amour maternel, mais voilà, on s'entend. Mmh. Et du coup, c'est une relation importante parce que si elle est bien menée, ce sera de là que viendront les sentiments nourriciers de tendresse humain. Et on voit que dans la tribu des Baruya, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a une symbiose avec la mère et une exclusion du père à la naissance. Donc le père ne voit pas son enfant pendant assez longtemps. Par contre, la mère le voit beaucoup et il procède ensuite à des rites initiatiques qui sont dingues pour détacher les garçons de leur mère, en fait.
D'accord. Oui, ce qui nous ramène un petit peu au mythe de l'instinct maternel qui exclut un petit peu les hommes et les empêche de materner. Ça. Et en plus, ce qui est assez pratique, c'est que ça rend les femmes responsables de leur malheur, quoi.
C'est ça, parce que du coup, ce serait à cause des femmes.
Voilà. Donc ouais, voilà, on dit qu'un homme qui fuit ou opprime les femmes aurait été trop couvé ou pas assez. Enfin voilà, il y a toujours ce truc du trop ou pas assez de la mère. Enfin, voilà, merci la psychanalyse, merci Freud pour ces idées un petit peu dépassées maintenant.
Mais c'était brillant pour affirmer la masculinité en tout cas. Et du coup, pour en revenir au mur d'initiation, ils servent bien à ce que les garçons qui deviennent alors des hommes renient leur part de féminité en fait, en apprenant le stoïcisme moral et physique qui passe par des épreuves dures de type flagellation, humiliation, et d'ailleurs qui se rapprochent des anciennes pratiques des écoles britanniques ou des Marines encore. C'est à peu près la même chose. Et du coup, on fabrique des combattants en fait.
Voilà, des combattants qui vont pas connaître la peur, qui vont pas connaître la souffrance, en tout cas qui n'ont pas le droit d'en parler. À moins de faire preuve de faiblesse.
Ouais, c'est ça. Voilà pourquoi on galère après parler avec les hommes. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc par rapport à l'homosexualité aussi, puisque comme on le disait, il y a eu trois étapes dans la construction. C'était
je ne suis pas un bébé.
L'enfant, la femme et puis l'homosexualité. Et enfin, se différencier de ça en tout cas. Et du coup, on a vu que dans certaines tribus, et en Grèce antique par exemple, on considérait qu'après le corps à corps avec leur mère, les garçons devenaient des hommes par une relation intime avec un autre homme en fait, adulte.
D'accord.
Et du coup, ça menait à des fellations ritualisées chez les Sambia, par exemple, qui, en fait, en gros, après s'être purgé des liquides féminins, ils pensaient que la masculinité arrivait par les liquides masculins. Et du coup, pareil, chez les Grecs, il y avait une relation hyper intime et régulière, donc des relations sexuelles, avec un homme encore pur, donc qui était encore vierge. Et le sperme avait des vertus virilisantes qui contrebalançaient l'effet féminin et du jet maternel, tu vois.
Ok.
C'est le truc de la pédagogie homosexuelle, en fait. Et du coup, pourtant, dans cette société-là, après, être homosexuel, c'était toujours interdit, c'était toujours une honte suprême et tout, mais pas dans la pédagogie, c'était une façon de devenir un homme, c'est d'avoir un contact intime pour contrebalancer celui de la mère d'avant, tu vois.
Et du coup, on parle quand même là de pédocriminalité, on est d'accord ? Parce que
oui,
c'est avec des jeunes hommes.
Après, les Grecs, c'était en Grèce antique.
Oui, oui,
et
non,
par
bien
contre,
sûr.
Les Indiens, c'est des tribus, mais ils n'ont pas les mêmes mœurs et tout, totalement. Surtout qu'en plus, c'était des relations à sens unique. Par exemple, c'était le pourvoyeur de sperme n'en reçoit pas, par contre.
D'accord. Alors du coup, pourquoi est-ce que l'homosexualité, encore chez les hommes maintenant, est si mal vue et devient aussi facilement une insulte, finalement?
Et en fait, dans la société, l'hétérosexualité est perçue comme une condition à la masculinité, parce que c'est la norme. L'homosexualité, elle est passée du crime à la maladie mentale, à une identité à part entière, mais qui est mal vue. Et en fait, l'homophobie, dans l'idéologie, elle reste, c'est quelque chose qui ramène à la passivité de l'homosexuel, qu'on appelle aussi tante, folle, pédale, donc que des noms féminins, qui sont... Donc la passivité, elle est ralliée à la féminité, en fait.
Oui, d'accord.
Ça traduit une idée conservatrice des rôles traditionnels des genres, en fait, parce que c'est une angoisse, parce que du coup, c'est la passivité féminine, la passivité, la sensibilité. Donc c'est ça, en fait, qui pose problème dans l'homosexualité. Enfin,
d'accord.
En tout cas, selon Elisabeth Badinter. Et c'est les chercheurs qu'elle cite dans ce texte. Et du coup, l'homophobie devient aussi un obstacle majeur à l'amitié entre les hommes, qui est contrairement aux femmes, parce que les femmes, on voit qu'il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup d'amitié entre hommes, mais c'est pas la même amitié.
Oui, c'est vrai. Ça me rappelle d'ailleurs ce qu'un prof me disait à la fac, c'est qu'il disait que ça, c'est un truc, je pense, qui s'améliore quand même un petit peu, cette peur de l'homophobie. Parce qu'il me disait que quand il était jeune, lui, il voyait jamais des garçons se faire la bise. À part entre frères, enfin, tu vois, des gens de la même famille, là, il pouvait y avoir, parce qu'il n'y avait pas cette condition sexuelle qui rentrait en jeu. Mais des garçons qui se faisaient la bise, c'est direct, c'était ah non, je suis pas gay, je fais pas la bise. Alors que c'est vrai que maintenant, je trouve que quand même, en tout cas, après, moi, voilà, on parle toujours de notre cercle à nous, hein,
ouais,
mais il y a quand même des garçons qui se font la bise un peu plus facilement, sans tout de suite se dire, c'est une pédale.
Ouais. Et en plus, faudrait aussi arrêter de penser que c'est si grave d'être homosexuel.
Mais bien sûr.
Parce que c'est aussi être un homme.
Bah, de toute façon, moi, je pense que la question ne se pose pas après.
Oui, totalement.
Mais voilà, en fait, de ce que tu me dis, en fait, la peur de l'homosexualité, au final, revient à la peur d'être une femme, en fait. Enfin, tu vois, l'homophobie découle de la gynophobie. C'est parce que le féminin est déprécié que l'effémination est l'indice de la lâcheté, de la mollesse, etc.
Totalement. C'est très bizarre. Ça m'a laissé perplexe, mais je trouve que ça expliquait beaucoup de choses.
Bah oui, du coup, c'est vrai que ça éclaire un petit peu ma lanterne.
La mienne aussi.
Ok. Eh bien, du coup, on dit aux hommes de nous rejoindre dans le féminisme.
Carrément.
Et qu'on pourra pas faire changer les choses sans eux. C'est important qu'ils le sachent et qu'ils l'entendent.
Ouais, et que c'est pour eux aussi.
Et puis moi, bah, je vais te laisser. du coup, comme on parlait des hommes, j'avais envie peut-être pour la prochaine fois... si on pouvait discuter un petit peu du couple, parce que moi je me pose beaucoup des questions sur le couple et comment est-ce qu'on gère son féminisme quand on est en couple.
Ouais, carrément. Ouais, ça peut être un peu intéressant ça.
On fait comme ça ?
Ça marche. Et bah vas-y.
Eh bien salut, à la prochaine.
À toutes.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisées, les femmes et de nos sœurs séparées. notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes.